Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au théâtre de l'Alliance française. Pour un masque et la plume consacré aux films en salle, je dis bien, ce n'est pas un message de Radio Londres, les films en salle, puisque les cinémas martyrisés sont désormais libérés avec Camille Nevers de Libération, Charlotte Lipinska de Vogue, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et évidemment d'une heure en série tous les samedis soirs sur Inter et avec Eric Neuhoff du Figaro. On parle ce soir de 5 premiers films signés Viggo Mortensen, Emerald Fennell, Florian Zeller, Ludovic Bergerie, Aurélien Verne-Lermuzio, mais aussi du nouveau film à la demande de Xavier, de Christophe Baratier, Envole-moi, même si le verbe est un peu mal choisi. Dans le courrier de la semaine, à propos de The Nightingale de Jennifer Kent, Jean-Jacques Corriot d'Aix-en-Provence est très en colère, manifestement, pour les critiques mâles du masque, le fait que la population aborigène de Tasmanie soit passée de 10 000 personnes à 300 entre 1803 et 1833 n'a été accompagné d'aucune violence. Et les colonisateurs anglais étaient de braves types. Dans ce film puissant et passionnant, la violence, ça oui, la violence, hein, à laquelle on assiste, est le reflet fidèle de ce qu'a été cette époque dans cette région du monde. Heureusement, ajoute Jean-Jacques Corriot, qu'il y avait Eva Bétan pour s'opposer au mal. Et Rodrigue Huart ajoute que Jennifer Kent s'empare de l'histoire de son pays et des abominations de la colonisation en utilisant les codes de l'horreur est un geste fort et trop rare pour être traité avec désinvolture. Je rappelle qu'ils n'ont pas aimé le film. Les critiques disent: discuter des qualités d'un film est une chose, poser un regard moral déplacé, comme l'a fait Michel Simon, avec un biais politique franchement gênant, en est une autre. Sinon, Jean-Frédéric Fabre, Volto de Nice, nous sait gré d'avoir parlé de ce très beau film qui est Batman de Tim Burton. C'est l'époque où on ne parlait que de films anciens. Il fut un temps où les blockbusters américains, ajoute Jean-Frédéric Fabre, Volto, avaient une âme créative avant qu'ils ne deviennent des produits numériques industriel pour adolescents. Et enfin, suite du courrier sur la Dolce Vita de Fellini, là c'est Madame Michèle Théry qui persiste et signe. J'ai trouvé ce film d'un ennui incommensurable, un film creux, m'as-tu vu, joué par des cabotins et où il ne se passe rien. D'ailleurs, à part le chef-d'œuvre qu'était La Strada, je n'ai jamais pu accrocher à Fellini, nous dit Michèle Théry, et le vomitif à Marcor m'a laissé le souvenir d'une totale imposture. J'affirme qu'on a le droit de ne pas aimer Fellini et de trouver la Dolce Vita d'un ennui infini sans être pour autant un inculturé ou une inculturée. Au contraire, Odile Roire nous écrit: mon fils a aujourd'hui 17 ans et grâce au VHS conservé dans le grenier, je lui ai fait découvrir Elena Veva et Amarcord et j'ai été frappé par la modernité de ces films et l'impact sur un garçon d'aujourd'hui. Pitié, faites passer l'info et merci encore pour votre passion. Voilà, et on commence avec Falling, le premier film comme réalisateur de l'acteur Viggo Mortensen, avec lui-même, avec le vénérable Lance Henriksen, 81 ans, Terry Chen, et même, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, David Cronenberg,
oui,
pour un rôle furtif, hein, de médecin proctologue. On peut en tirer des conclusions. John Peterson, c'est Viggo Mortensen, vit avec son mari Eric, qui est joué par Terry Chen, en Californie, où ils ont adopté une petite fille. Le couple est contraint de recueillir, antichambre de la maison de retraite, Willis, le père, qui est très malade, de John, venu de l'Ontario rural, puisqu'il c'est à la fois Alzheimer et à la fois un cancer. Il est incarné par Lance Henriksen. Il entre dans ce qu'on pourrait appeler une forme de démence, sans cesser pour autant d'être homophobe, raciste, ultra-réactionnaire, je pense que j'en oublie, c'est dire que la cohabitation ne va pas être facile avec ce vieux père qui éructe, qui insulte, qui délire. Camille n'a pas totalement été sous le charme, si j'en juge par ton papier dans Libé. Tu disais de ce film que la seconde partie était la parodie plombante de la première. Là, tu donnes même pas envie de voir la première.
Pourtant, si, elle vaut le coup vraiment, la première. Moi, j'ai été tellement... je suis tombée de haut. Le film s'appelle Falling, mais réellement, la première partie m'a totalement conquise. J'étais prête à écrire un papier presque dithyrambique. Et à 56e minute, et c'est vraiment très précis, c'est la scène...
Le film fait 1h52.
Et oui, voilà, vraiment, pile à la moitié, la séquence avec la sœur et le reste de la famille qui débarque. La sœur qui est jouée par cette comédienne, par ailleurs, que j'aime beaucoup, qui est Laura Linney, qu'on a vu chez Eastwood, etc. Je trouve la scène totalement à côté et on se dit que peut-être à ce moment-là, quelque chose va enfin avoir un déclic, que le film va passer la deuxième, la troisième, la cinquième, je sais pas, une vitesse, quoi. Et non, au lieu de ça, le film qui jusque-là avait une forme de grand guignolerie avec ce personnage de vieux connard, faut appeler le type, le père.
Même un peu vieux salaud, si on veut
voilà,
aller jusqu'au bout.
Voilà. Je voulais même appeler mon papy la soupe au connard, mais je pense que ça serait pas passé parce qu'il y a toute une histoire avec un canard qui tue gamin dans les flashbacks et tout. D'ailleurs, je ne comprends pas ce qui se passe avec les canards parce qu'il y a aussi un canard dans l'autre film de vieux qui est au programme.
On en parlera après.
Mais je sais pas, il y a un truc avec les canards. Ça doit être un truc théâtral sur la métaphore du canard et de la vie et de la mort. Et donc, voilà, au bout de la 56e minute, il y a cette espèce de scène qui sent sable avec la sœur. Tout le monde reste comme un lapin, les yeux dans le phare, à regarder ce vieux en train de sortir ses insanités. Et il ne se passe rien, sauf qu'on attend bien sûr la scène à faire où enfin Viggo Mortensen va se rebiffer enfin contre le paternel après moult flashbacks et tout. Et quand ça a lieu, on s'en fiche un petit peu, c'est déjà plombé, c'est un petit peu comme si c'était la scène qu'il fallait faire mais qui retombe un peu. Et je ne comprends pas pourquoi ce film s'enlise à ce point alors qu'il avait vraiment tout pour avoir un charme que Viggo Mortensen a comme comédien. Moi, je suis pour et à fond pour les films réalisés par des comédiens. Il y a des très beaux films de comédiens qui sont peut-être uniques et qui resteront uniques. Et je pense que Mortensen a mis beaucoup de lui et de quelque chose de très personnel dans ce film.
Ça, il l'a dit et répété beaucoup. Hein.
Et ça se sent, ça se sent. Mais je ne comprends pas, à un moment donné, cette passivité et cette répétition qui devient finalement une sorte d'auto-parodie dans la deuxième partie.
Xavier, il a tout intérêt effectivement à signaler que c'est très personnel parce qu'à l'écran, sorti du contexte et sorti de la signature de Viggo Mortensen, parce que sans cela, je ne pense pas qu'on aurait jeté un œil à ce drame familial extrêmement programmatique et très très prévisible. Ça n'a aucun intérêt. C'est un premier film.
Ah, t'es sur la même longueur.
Ah non, mais complètement, j'ai même pas eu droit à cet état de grâce. J'ai envié Camille en l'entendant. C'est-à-dire que moi, dès la première séquence, quand la mère, espèce de faux Malik, ramène l'enfant, le cul bordé de merde, hein, puisque, voilà, et que le père le surveille en disant qu'est-ce que ça pue, il regarde l'enfant et lui dit je suis désolé de t'avoir mis au monde parce que tu vas crever, et que l'enfant se met à pleurer, le bébé de 3 jours se met à pleurer, je me dis, oh là, attention, psychanalyse à 2 balles quand même, pachydermique, et tout le film est comme ça, c'est une sorte de millefeuille temporel à la Mitsugushi, mais sans le talent évidemment du cinéaste japonais, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un élément dans le présent, on verse un verre d'eau par exemple, hop, tout de suite, on a un saut dans le temps, dans le passé, et c'est la petite cascade qui courait derrière la maison quand il était enfant et qu'il jouait. Non mais c'est à ce moment d'écriture, de lisibilité, de surlignage, ça n'est plus possible, c'est-à-dire que jamais il ne laisse aucune liberté au téléspectateur de se faire sa propre histoire, c'est psychanalytiquement d'une lourdeur sans nom, et alors sa représentation des gays, alors évidemment Viggo Mortensen n'est pas homosexuel, il nous fait bien comprendre qu'il ne l'est pas, mais qu'il a pour la communauté LGBT, non il le joue pas très très bien, mais qu'il a pour la communauté LGBT le plus grand respect, alors il faut voir comment il nous dessine, évidemment dès le matin au petit déjeuner, ils nous ont des bouquets. Bien sûr, moi je fais des bouquets toute la journée. Je passe mon temps à cueillir des œillets comme ça et à les remettre à la bonne. Oui, non, mais vraiment tout le temps. Il a voté Obama. Hein. Le dimanche ou le samedi, on va en famille voir des expositions de peintres cubiques parce que il faut inculquer à cette petite fille dès le départ quand même un sens de la culture.
Qui s'appelle Monica.
Tout ça.
Enfin là, on sent que Xavier a préféré le père.
C'est bienveillant, c'est précautionneux, c'est lourdingue, c'est appuyé.
Mais la cause du film est respectable quand même. On a l'impression à t'entendre que c'est un.
Mais c'est la grande question. Est-ce qu'on note la note d'intention ou est-ce qu'on note le film ou est-ce qu'on juge la manière dont il est écrit et filmé? Et je suis désolé, je trouve ça d'une lourdeur, mais absolue. Charlotte?
Non, moi je ne suis pas du tout aussi sévère que mes camarades parce que je trouve que finalement, au-delà de cette relation filiale extrêmement conflictuelle, Viggo Mortensen, il parle de son pays. C'est-à-dire que très clairement, il nous dresse le portrait aussi d'une Amérique profondément divisée et fracturée avec le père qui, comme tu disais, c'est l'Amérique de homophobe, réactionnaire, misogyne, tout ce qu'on veut, enfin c'est terrible, et de l'autre effectivement son fils beaucoup plus progressiste, ouvert, libéral de la côte californienne. Et entre ces deux parties-là, quand le dialogue n'est plus possible, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le film n'arrête pas de poser cette question de comment on fait pour aimer quelqu'un qui ne vous aime pas et de maintenir un dialogue. Est-ce qu'on répond à la violence par la violence? Le père est extrêmement violent verbalement, hein, maintenant on sous-entend qu'il a même été violent physiquement dans les flashbacks, mais là il reste très violent verbalement. Et effectivement, on est un peu embarrassé par la paralysie du fils face à lui qui n'arrive pas à véritablement lui répondre. On n'a qu'une envie, c'est de le secouer, lui dire fous une claque à ton père, quoi. C'est un peu l'envie qui nous tenaille. Et en même temps, on sent qu'il y a chez lui, enfin chez le personnage, pardon, quand même un reste d'amour qu'il va chercher au plus profond de lui et qu'il ne sait pas comment répondre à cette agressivité permanente. En ça, je trouve ça assez intéressant. Alors évidemment que Viggo Mortensen pousse les curseurs de l'antagonisme un peu loin dans ces deux pôles pour nous montrer cette division, mais c'est pas si inintéressant que ça. Et puis un mot sur Lance Erickson quand même. Il est dément, je veux dire, qu'il joue le père. C'est vrai que ce soir, on va beaucoup parler d'acteurs d'un certain âge qui perdent les pédales.
Il est plus jeune qu'Anthony Hopkins.
Ben ouais, mais il est tout aussi bien. Moi, je le trouve vraiment très, 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 très,
on a besoin d'en arriver à ce genre de caricature.
Ça pourrait être une scène de comédie.
Oui,
ça pourrait être.
Mais il est au premier degré quand même de la dramaturgie.
C'est Cronenberg.
Non, mais c'est un film terriblement classique, mais c'est pas forcément une insulte parce que c'est assumé dans le film. Il veut pas faire les pieds au mur. C'est le brave premier film à l'ancienne avec un personnage avec qui dans la vie on ne passerait pas 5 minutes, mais qui sur un écran fait un personnage formidable. C'est le vieux réac comme ça, ce vieux lion déplumé, qui est là à la fois pathétique et odieux. Et c'est une preuve que la maladie d'Alzheimer est une invention, puisqu'il a rien oublié du tout. Il est toujours homophobe, raciste, misogyne. C'est le fils qui a Alzheimer, puisque lui... Apparemment, il a tout oublié, malgré les flashbacks, il pardonne tout. Mais Mortensen est assez bon dans le rôle de ce pauvre fils qui est au-delà de la déception et de la douleur, il sait plus quoi faire. La barque est un petit peu chargée, parce que un vieux réac comme Lance Erickson, qui jouait dans Alien d'ailleurs, mais là c'est lui le monstre dans le film, visiblement, on le sauve pas beaucoup. Il y a toutes les scènes attendues, les retours en arrière sont extrêmement prévisibles, la scène de repas familial, on l'a vu 1000 fois, mais une fois de plus c'est pas si grave que ça. C'est un film tout à fait visible pour un week-end en famille, à condition de bien s'entendre et que le père soit peut-être déjà dans un hôpital pour soigner sa maladie.
Alors justement, c'est pas fini. Donc là, c'est Falling de Viggo Mortensen. Et on continue avec Alzheimer, avec Les Vieux Pères, avec The Father, le premier film de Florian Zeller qui lui a valu 2 Oscars. L'un pour Anthony Hopkins et l'autre pour le scénario co-signé Christopher Hampton. Et c'est l'adaptation en anglais de la pièce Le Père qui avait été créée en 2012. Charlotte et moi, on s'en souvient au théâtre Héberto, puisque on s'en souvient, c'était avec, on n'a pas encore Alzheimer, c'était avec feu l'immense Robert Hirsch qui était dans le rôle titre, qui était mais vraiment déjà un très grand comédien.
Et qu'il l'a joué plus de 300 fois, je crois.
Richard III, là, au français, il était incroyable. Et là, il a joué, il a porté cette pièce à ses débuts, jusqu'au bout. Et donc le rôle d'un homme veuf, frappé par la maladie d'Alzheimer, à la fois colérique, désemparé, qui perd peu à peu, c'est progressif, la raison, la mémoire, et qui retombe en enfance sous le regard de sa fille. Interprété ici par Olivia Colman. Oui, j'ai oublié de dire que c'est en anglais le film, hein, totalement, même si Florian Zeller est français et que la pièce était à l'origine en français. Le propre de la pièce, comme du film, qui est déplacé donc de Paris à Londres, c'est que le spectateur est en même temps dans la tête confuse, très confuse du père, et dans celle de sa fille, d'où les quiproquos, et notre sentiment d'être sans cesse entre le vrai et le faux, entre le cauchemar et la réalité. Cette pièce, Philippe Leguet l'avait portée à l'écran, déjà dans Floride, avec Jean Rochefort, dont c'était d'ailleurs le dernier rôle au cinéma. Et donc là, c'est Florian Zeller qui s'y est lui-même collé, film d'1h37, et donc qui prolonge. Si vous passez un week-end entier avec avec, en voyant le matin Falling et l'après-midi The Father, vous risquez d'avoir une soirée un peu
mélancolique. Surtout si vous voyez la bataille le dimanche soir.
Charlotte.
Alors, ce que je trouve assez intéressant, c'est que souvent, quand il y a des adaptations de pièces de théâtre au cinéma, le réalisateur, dans son adaptation, s'efforce d'écrire des scènes en extérieur pour justifier la transposition au cinéma. Et là, c'est pas du tout le cas. Zeller assume complètement le huis clos de son film. On reste enfermé, à part quelques plans extrêmement furtifs. On est véritablement enfermé dans cet appartement. Et Florian Zeller utilise tous les outils du cinéma pour effectivement nous faire plonger dans ce chaos mental de Anthony, puisqu'il s'appelle Anthony, contrairement à la pièce, il a évidemment changé le prénom pour coller à celui d'Anthony Hopkins. C'est-à-dire que par des effets de montage, par des effets de narration où les scènes se répètent sans être tout à fait exactement les mêmes, par un décor qui est identique et qui en même temps a des légères modifications par des jeux de lumière, de décoration, d'objets qui sont déplacés, tous ces outils-là du cinéma, voire même de genre, puisqu'il y a des pistes un peu de thriller qui sont esquissées au début du film, on les perd après, nous font plonger véritablement dans la tête de ce pauvre monsieur qui perd les pédales, et on est tout aussi perdu et désarmé que lui. Et c'est vrai que le film, à mon sens, s'apprécie si on accepte au bout d'un moment d'arrêter de vouloir tout comprendre. C'est-à-dire que on est toujours, en tant que spectateur, à vouloir être un peu plus malin que le metteur en scène et à anticiper les réactions des personnages et à se dire « Ah oui, non mais là c'est un rêve, en fait c'est ci, c'est ça », et à vouloir anticiper ses réactions.
Mais tout ça, c'était le cas de la pièce, hein,
oui,
c'était pareil.
Oui, mais là c'est vain, et c'est ça que je trouve ça très intéressant, c'est qu'une fois même le film terminé, si on remet toutes les pièces du puzzle ensemble, il y a toujours un truc qui cloche, en fait. Ça ne fonctionne jamais. Et donc, en ça, l'état de confusion, on le ressent véritablement. Après, effectivement, Anthony Hopkins dément, c'est un rôle génial pour lui, parce qu'on l'a toujours vu dans des rôles d'hommes puissants, tout le temps dans le contrôle, dans l'ambivalence. Et donc là, le voir dans cet état de faiblesse et d'extrême vulnérabilité, c'est très surprenant, même pour nous, en tant que spectateurs. Moi, j'avais jamais vu Anthony Hopkins dans un rôle comme ça, et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup.
Eric.
Je peux vous dire qu'il fait moins le malin, Hannibal Lecter, là-dedans. Il est joué par Hopkins, comme tu viens de le dire, et on voit que c'est le rôle à Oscar, il en profite au maximum. Je ne sais pas ce que donnait Robert Hirsch, parce que je n'avais pas vu la pièce, mais j'ai vu le film 3 fois.
Robert Hirsch était immense.
Il est pas immense. Mal non plus, Hopkins.
Il était vertigineux, ce n'est pas le cas d'Hopkins. Ouais. Il était vertigineux.
Ouais, mais c'est au cinéma, donc c'est différent.
Bien sûr. Non, mais
et Charlotte a raison, le film est tellement troublant, bourré de trouvailles purement cinématographiques, qu'on se demande si les morceaux vont s'imbriquer, parce qu'on est vraiment dans le labyrinthe qui est la tête du personnage, là, de ce vieux malade presque sénile. Et ça ne s'emboîte jamais tout à fait. Je trouve ça très, très fort. De même qu'il a trouvé un tas de petits détails, de changements de décor, comme tu disais, de tableaux qui disparaissent, de cuisine qui n'est plus la même, de montres qu'on est censé avoir perdues ou elle a été volée par...
Dérobée. Il croit qu'elle a été dérobée.
Oui, oui. Non, mais tout est pas mal. Et cette idée de faire jouer les personnages par des acteurs différents, on est aussi paumé que le père en question. Et le film est d'une élégance. L'appartement rappelle celui de Carnage de Roman Polanski. Et c'est peut-être lui aussi le personnage principal, cet appartement. Et il n'est pas idiot du tout, Zeller, parce que il a demandé à Christopher Hampton d'adapter la pièce qu'il avait déjà traduite en scénario. Il a pris comme opérateur Yorgos Lanthimos, qui n'est pas un manchot non plus. Et cette modestie lui a réussi. Et le film est très, très troublant, très bouleversant, très intelligent, juste, cruel et tendre. Et moi, c'est tout ce que j'aime.
Xavier,
c'est le genre de film, j'ai l'impression d'être assis à côté du metteur en scène qui commence déjà à faire le commentaire qu'on trouvera dans le DVD. C'est-à-dire, regardez comme mon travelling est précis, regardez comme mon changement à vue a du sens, regardez comment ma modification de lumière va vouloir signifier quelque chose.
C'est un premier film, Xavier.
Ouais, ah oui, c'est un premier film, quand même.
Mais c'est un premier film, on en aura plein aujourd'hui. C'est extrêmement, alors évidemment, tu l'as dit, maîtrisé. On voit le metteur en scène qui arrive avec son double décimètre, son équerre, son compas, et machin et truc. Et je vais bien respecter les règles. Je connais ma familiologie du cinéma par cœur. Je vais faire le travelling qu'il faut, le petit zoom qu'il faut. Sauf qu'à un moment, mais c'est totalement artificiel et factice. C'est-à-dire que quand on a compris, franchement, c'est pas la peine de voir le film 3 fois pour avoir compris quand même qu'on était dans le mental de cet homme qui n'est sans doute plus depuis longtemps
dans
cet appartement.
Hein, je suis comme,
oui, t'as bien de la chance. C'est-à-dire qu'on commence à jouer en se disant, bon alors, qui est la véritable fille, qui est le personnage de substitution, on sait où est-ce que ça va se terminer, donc on commence à vouloir replacer les personnages sur l'échiquier, ça s'est fini qu'on n'est plus du tout dans l'émotion de la pièce, ni de la dramaturgie. Moi, personnellement, j'ai regardé ça comme une espèce de metteur en scène brillant, il vient du théâtre, il veut absolument montrer qu'il fait du cinéma, donc c'est un petit peu frénétique, il en met tout le temps, et là, généralement,
oui,
il ne faut pas.
Aucun extérieur,
quand
comme
il se calme, parce que subitement, il filme, vous avez quand même oublié de citer Olivia Colman, qui est absolument magnifique, et qui filme, c'est Olivia.
Très bien.
Les compliments sont allés à juste titre à Anthony Hopkins, mais franchement, je trouve ça extrêmement mécanique, avec à l'intérieur, de temps en temps, des moments d'incarnation sublime, mais qui n'enlèvent rien au côté très
je
théorique.
Je qu'il y a quand même plus de troubles que dans l'adaptation de la même pièce, Floride, par Philippe Le Guay, quand même.
Non mais attends, c'est trop facile, là. T'imagines le degré justement de comparaison.
Camille.
Non, mais c'est un film confiné qui sort en salle.
On est ravis,
mais franchement, on préférerait rester confiné. Vu les films qui sortent en salle en ce moment, c'est un peu l'enfer. Je dois avouer que je suis très désespérée, puisque rien ne me plaît. Et donc, ce film-là, encore moins que Falling. Finalement, Falling s'en tire plutôt mieux quand
attends,
je compare les deux.
Il y a Promising dont tu vas encore dire
oui,
du bien, je sens.
Oui, voilà. Sinon, il y a Olivia Williams, moi, j'aime beaucoup, puisqu'il se mesure à des pointures de comédiens anglais, etc. Moi, c'est Olivia Williams, quand elle apparaît à chaque fois, elle fait l'infirmière, la fausse fille, etc. Pardon.
Fallait pas le dire.
Spoiler.
Il y a tellement de filles et d'infirmières qu'on sait plus qui est quoi. Enfin, bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'enjeu, enfin, puisqu'on est dans la tête de ce monsieur qui est en pleine dégénérescence mentale. En effet, si je dois retirer une chose, c'est je sais pas si vous avez ce rêve, mauvais rêve récurrent d'appartement qui devient un petit peu comme une espèce de labyrinthe. Moi, c'est des choses qui m'effraient assez. Et je trouve que ça, c'est plutôt réussi. Mais c'est pas non plus Alain Resnais.
C'est une confidence ou c'est un jugement?
c'est une
annonce immobilière.
C'est-à-dire que j'ai des rêves depuis petite où je suis dans des appartements qui grandissent, qui deviennent autres. Très, très étrange, un peu comme ce monsieur. Donc, c'est peut-être.
Bon, bah, Camille, on va rentrer à la clinique.
C'est ça. Non, mais bon, peut-être que j'ai Alzheimer depuis petite. Mais en tout cas, voilà, le film me paraît être un peu comme du Carpenter raté, l'entre-deux la folie, vous voyez, on est dans la tête de quelqu'un, et puis l'espace change au fur et à mesure, mais ça me manque un tout petit peu de folie, et de quitte à faire un premier film, autant risquer des choses.
Je trouve
que Mortensen, il risque un tout petit peu plus de trucs en mettant du Danemark chez Clint Eastwood. Là, c'est vraiment ultra pour plaire, pour avoir le Scar appliqué, plan-plan, rien ne dépasse, quoi. C'est très très sage et très... douillet, quoi.
Au moins, les camps sont clairs, au masser la plume. The Father, le père, le premier film de Florian Zeller. Autre premier film primé aux Oscars, cette fois pour le meilleur scénario original, c'est Promising Young Woman de l'actrice britannique Emerald Fennell avec Carey Mulligan. Et dès la première scène où une jeune femme remet à sa place l'homme qui la harcèle, on sait exactement où on va sur le terrain de Me Too. La jeune femme, c'est Carey Mulligan, alias Cassie, serveuse dans un coffee shop qui habite chez ses parents et qui joue les pochards de la nuit pour piéger les violeurs cueillis dans les clubs de la ville. Le film où l'humour noir, le dispute au thriller, déroule donc la croisade vengeresse de Cassie, dont la meilleure amie à la fac de médecine où elles étudiaient a été violée et même s'est suicidée. Film d'une heure 53, que tu ne... Là, il y a un peu de risque quand même, non? Il y en a ou il n'y en a pas?
Bah non.
Non, je dis ça parce que je t'ai lu, donc...
Non, c'est un scénario totalement bouclé,
Camille, pardon, j'ai...
ultra écrit. D'ailleurs, il a eu l'Oscar, lui aussi.
Hein, absolument, c'est ce que je disais.
Le scénario original. Et autant la cinéaste, dont c'est un premier film aussi, donc a collaboré à des séries, dont la très bonne Killing Eve, que j'adore. Mais alors là, c'est totalement à l'épate et totalement... Moi, c'est ce que j'appelle le film pénible. C'est-à-dire que c'est un film, au fur et à mesure, on le voit en train de faire tous les efforts possibles pour nous surprendre à chaque plan, avoir des surprises de scénario, des rebondissements, des twists. Bon, je vais pas en faire, parce que moi, le côté post-Me Too, j'en ai un petit peu marre, mais c'est vrai que j'étais très, très énervée d'entendre mes camarades descendre sur la violence du film, le Nightingale de Jennifer Kent, que je tiens pour un grand film. Surtout que ce sont les mêmes qui se vautrent devant Bourman et Délivrance. Et donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on reproche à Jennifer Kent son ultra-violence. À quelqu'un qui aime beaucoup John Bourman. Et là, je vois que positif, puisqu'il s'agit du même. Et ils aiment beaucoup ce film aussi. Et donc, il y a quelque chose qui met... Enfin, en tout cas, il y a deux camps très clairs entre qu'est-ce que c'est qu'un revenge movie. Et je pense que la violence épate est totalement chiqué de Promising Young Woman finalement se retourne contre le film. Je trouve que le film est limite misogyne et finalement tous les virilistes qui disent ah vous voyez ces femmes, elles pensent qu'à retourner la guerre contre les hommes, bon bah finalement le film leur donne pas complètement tort puisqu'il s'agit de renverser le jeu en allant violer le violeur. Et le film me paraît totalement mode et pop mais faussement acidulé avec une espèce de petit effet mode
dont tout le monde dit post-MeToo, mais pourquoi on est encore dans MeToo, non ? Pourquoi on est dans le post-MeToo ? Je dis partout post-MeToo, ça me fatigue. Donc, comme si le féminisme était déjà une espèce de genre post-moderne, alors que non, on est encore dans quelque chose d'hyper crucial. C'est pour ça que le Nightingale était un film qui faisait dévier une vengeance sur tout un peuple, les aborigènes, le racialisme et tout. Là, c'est vraiment purement... J'adore Carey Mulligan par ailleurs, mais autant revoir encore une fois le film de Paul Dano, Wildlife, où elle faisait une mère géniale. Là, elle fait une sorte de vieille petite fille qui est un petit peu...
Je rappelle que c'est notre premier Masque et la Plume consacré au film en salle.
Oui, bah,
nous
restez chez vous.
Allez voir, Eric.
Bah, c'est pas post-MeToo, c'est pro-MeToo complètement ce film. Mais c'est mélangé à Very Bad Trip. C'est un peu la réponse cinématographique à la blague de Coluche qui disait que l'alcool avait été inventé pour que les filles moches puissent avoir des aventures. Et là, c'est le contraire. Je trouve ça très intelligent ce qu'elle fait, la fille, là-dedans. Et le film est un film de scénario. C'est un film mode, comme tu l'as dit. Kitsch, dans les roses, il y a du rouge à lèvres, du vernis à ongles, et les serveuses dans une cafétéria clinquante, presque comme dans American Graffiti. C'est une fille qui crache dans le café d'un de ses ex-camarades de faculté, et elle a un plan de vengeance. Moi, j'ignorais qu'on appelait ça Rape and Revenge, ces films-là, en français. Et le film est assez jubilatoire. Bah,
toi, c'est
comment?
Oui,
Rape and Revenge,
c'est
dans
c'est exprès.
C'était une blague.
Et cette histoire de conquête de pauvres types là, qui se font avoir par la fille et dont elle coche le nombre sur son carnet comme un prisonnier dans sa cellule, barre le nombre de jours sur le mur, c'est pas si mal que ça. Et non, c'est un film qui est intéressant. Et puis un premier film qui est gonflé. Très bon rôle pour Carey Mulligan, qui en a un autre excellent que vous devriez voir dans la parodie pour Saturday Night Live de La Jeune Fille en Feu, Portrait de la Jeune Fille en Feu, qui est tordant.
Ah, volontiers,
ça,
je veux bien voir ça.
Charlotte.
Moi, je trouve que le film rate complètement sa cible. Ah. C'est-à-dire que...
C'est bien parce qu'au moins les avis sont tranchés.
Oui, mais alors... voilà.
Il n'y a pas de demi-mesure.
Mais ça l'ouvre. Formellement, on peut parler d'un bonbon acidulé, mais alors moi, il m'a laissé un goût vraiment amer.
C'est
alors
pas un bonbon,
oui,
mais...
dans la première partie, il y a de l'ironie, il y a de l'humour noir, même si l'emballage est tout dans les couleurs pastel, parce qu'elle s'habille qu'avec des tenues de petite fille de 12 ans en rose pâle, en mauve et en violette, bref. Mais je trouve qu'il y a une vision, alors d'une part, absolument toute la gente masculine et tous les hommes qui traversent cet écran sont quand même des agresseurs en puissance. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'une fille très alcoolisée dans un bar, il puisse lui arriver des petites mésaventures, mais enfin là, c'est systématique.
C'est un film, hein, mais bon.
Ouais, je sais que c'est un film.
C'est le to-do list du film.
Il y a un côté extrêmement programmatique où pour aider le scénario, toutes les rencontres qu'elle fait, que ce soit un futur petit copain, tous les hommes qui la ramassent dans les bars, les anciens de la fac, voire le père qui est montré comme un pleutre pas possible, il n'y en a quand même pas un pour...
les femmes non plus, les autres
pour aider l'autre.
Plus.
Les femmes non plus. Mmh. Deuxième point sur lequel le film me pose problème, c'est qu'il y a aussi... une espèce de complaisance à montrer une rivalité entre les femmes. Et même si c'est assez intéressant la manière dont elle essaye de dénoncer l'aveuglement, le déni ou les lâchetés du système de la culture du viol, là je parle par exemple de professeurs à la faculté ou des directeurs de fac qui ont été au courant de l'affaire mais qui n'ont rien dit parce qu'il ne faut pas trop faire de vagues. Là, c'est vraiment intéressant, mais je trouve que ce qu'elle en fait cinématographiquement ne l'est pas. Et par ailleurs, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est que le film, finalement, reproduit les schémas qu'il dénonce, à commencer par l'invisibilité des victimes. La première victime dont on parle, c'est Nina, sa meilleure amie à la fac qui s'est suicidée, dont on ne verra jamais le visage, on ne sait pas qui elle est, qui elle était,
besoin.
Tout ça. Eh ben si, moi je regrette. La fameuse invisibilité des victimes,
ça évite les flashbacks.
Des filles
c'est vrai que ça fait,
violées,
ça fait un personnage de scénario, c'est
très
elle
important.
N'existe pas. Quoi.
Et alors là, elle est évacuée complètement pour ne servir que la vengeance de Carey Mulligan.
Tu voulais voir la
sextape
dont il parle à un
qui par ailleurs, et le film par ailleurs, si je trouve qu'il démarre assez bien, les dernières 20 minutes qu'on ne va pas révéler, alors là j'ai complètement lâché l'affaire, je trouve ça grotesque.
Xavier, je suis entièrement d'accord avec mes deux petites camarades. Petites au sens
pourquoi
évidemment.
Oui, oui. Pourquoi,
parce qu'il fallait pourquoi que je mette un adjectif que je pouvais féminiser de manière à ce qu'il n'est pas
dans l'ambiguïté. C'est un hommage au prochain film
de Siama. Donc avec Camille et avec Charlotte. D'abord, comme Camille, j'adore Nightingale. Je trouve que c'est un grand
merci,
film.
Merci Xavier, je
savais. Effectivement, on n'a même pas besoin de ça d'ailleurs pour savoir que Promising Young Woman est un film quand même très problématique, vraiment à plein de points de vue. Charlotte a signalé tous les mecs sont des ordures en puissance, sauf la copine trans.
Et ça en dit long sur la symbolique apportée par le film. Je n'ose même pas aller sur le terrain de
la psychanalyse.
Elle ne fait pas de bouquet, elle fait des glaces, elle fait du café. C'est pas une patronne chiante. Enfin, je trouve qu'il y a quand même régulièrement dans le film des choses qui posent vraiment problème. La scène de la fin, on ne la raconte pas, elle est d'une complaisance que je trouve extrêmement douteuse. Mmh. Pour faire féministe, on met quoi? On met du Britney Spears au violon, histoire d'avoir à la fois de l'acidité
pop...
Grande
chanson toxique, on est bien d'accord. Bah
mais tu conviendras quand même que c'est un tout petit...
Même à la Nouvelle Star, il faisait mieux le sur tout, les voilà. Reprises.
Et alors, quand elle tombe amoureuse, cette
arrête
vengeresse...
Arrête d'une pauvre femme.
Parce que les personnages de vengeresse de Kill Bill à Lady Vengeance, il y en a eu plein dans le cinéma, quand elle tombe amoureuse et qu'elle baisse la garde, c'est pour aller faire l'idiote sur du Paris Hilton avec son petit copain et bouffer du pop-corn devant la télévision et manger des glaces. C'est-à-dire qu'elle a des rêves de petite fille, mais immature. Le film, quand même, a un regard sur les femmes et sur les hommes que je trouve extrêmement douteux. Alors, tout ça, c'est pop, tout ça, c'est sweet, tout ça, c'est...
Et comme un manga.
Je crois que c'est Charlotte. Le personnage n'existe pas avant le film et n'existe pas après le film, bien évidemment. Mais c'est quand même extrêmement douteux. C'est un film de démonstration. C'est un film faussement provoque et assez rance, quand même, sur le fond.
Et c'est un film, encore, oscarisé. et c'est Promising Young Woman et c'est signé Emerald Fennell, qui est une comédienne qu'on a vue aussi dans The Crown, où elle est...
Et très bonne scénariste, Killing
Eve. Il faut voir Killing Eve.
Absolument.
Elle est née la showrunner.
Elle n'a pas créé. Elle n'a écrit que la deuxième saison.
Alors... Que moi, j'aime beaucoup, contrairement à plein. Mais
qui est très, très bien.
Mais voilà, là-dessus, elle a tout compris dans Killing Eve. Alors que là, je ne sais pas.
L'étreinte.
Le cinéma.
Maintenant, c'est... le premier film, à nouveau, comme réalisateur de l'acteur Ludovic Bergery. Un film qui signe le retour à l'écran d'Emmanuel Béart, qu'on voyait davantage ces temps derniers sur les scènes de théâtre. Mais c'est aussi avec des tout petits rôles, hein, avec Eva Ionesco et, pour un rôle plus important, Vincent De Dienne. Emmanuel Béart, c'est Margot qui vient de perdre son mari et qui se donne pour objectif de réapprendre à vivre. Elle quitte Nice et elle déménage près de Versailles, à Naufle-le-Château, sanctuaire du Racien s'il en fut, où d'ailleurs Eric Neuhoff va souvent s'incliner. Et elle s'inscrit à la fac en littérature allemande, ce fait qu'on parle beaucoup dans le film de Thomas Mann, de Fritz Zorn, etc., où les étudiants la renvoient brutalement à son âge et où elle se fait un ami, il n'y en a pas tant que ça, Aurélien, un homosexuel joué par Vincent De Dienne. Et puis elle cherche, ça c'est au milieu du film, sur des sites de rencontres avec plus ou moins de bonheur, celui qui pourrait lui rendre le goût de la sexualité qu'elle croit avoir perdue et qu'elle retrouve avec des maladresses parfois qui m'ont fait penser à celle d'une adolescente un peu encombrée de son corps changeant. Film d'1h40, L'étreinte, Charlotte.
Moi, ça m'émeut beaucoup de retrouver... la grâce d'Emmanuel Béart, c'est-à-dire qu'évidemment, on pense au film de Claude Sautet. Moi, c'est une actrice qui m'émeut beaucoup et je trouve qu'elle nous avait manqué au cinéma et que le rôle semble tellement écrit pour elle.
Avec... Si tu me permets, elle donne beaucoup
et
d'elle-même.
Elle donne, voilà, beaucoup. Alors, elle n'a pas du tout arrêté de travailler, film. Puisque tu le relevais, elle a fait beaucoup de théâtre,
beaucoup de théâtre
avec
surtout.
Stanislas Nordet, ouais, je dis Mourad, entre
au TNS,
autres.
Aussi
beaucoup.
À Strasbourg.
Et là, la renaissance de cette femme veuve, sa renaissance à la vie, son réapprentissage du rapport amoureux ou de la sexualité, il y a une sorte de renouveau qui colle très très bien avec le parcours d'Emmanuel Béart, actrice dans le paysage du cinéma français aujourd'hui. Effectivement, elle avait un petit peu disparu des radars au cinéma, j'entends, et là, on la retrouve, on la redécouvre. Je trouve que le film est plein de sensibilité, de délicatesse, qu'il mise beaucoup sur les silences, qui sont tout à fait maîtrisés dans le film. Et ce qui est assez beau dans le parcours de Margot, c'est que finalement, il n'y a aucun autre obstacle qu'elle-même à ce renouveau. Il y a finalement beaucoup de bienveillance et de délicatesse autour d'elle. Les copains qu'elle se fait à la fac, elle pourrait être leur mère.
Oui, les copains sont un peu indifférents, hein, en même temps.
Oui, mais en même temps, ils se foutent pas d'elle. Ils l'accueillent dans les groupes de travail. Ils l'invitent à sortir faire la fête. Non, ils sont tout à fait très accueillants avec elle. Et finalement, ça n'est qu'elle qui se restreint l'horizon possible. Alors après, effectivement, il y a quand même quelques petites maladresses.
C'est un peu démonstratif, quand même.
Voilà, et j'achète beaucoup moins le dernier quart d'heure ou les dernières 20 minutes, où il y a un peu une péripétie de scénario qui, à mon sens, n'avait vraiment pas besoin d'être là pour expliquer le parcours de cette femme. Donc, hormis cette fin que je trouve pas du tout à la hauteur du début du film, c'est un film très émouvant et assez délicat.
Eric,
c'est pas très original sur le deuil et la reconstruction, mais c'est complètement décent et surtout c'est étonnant de voir ce sujet adopté par un premier pour un premier film par un jeune cinéaste. L'histoire de cette veuve d'une cinquantaine d'années qui retrouve sa vie d'avant, qui reprend ses études, ce qui lui permet de pouvoir coucher avec le prof sans que lui soit accusé de détournement de mineur. Et toute cette errance...
J'allais dire plutôt de vouloir coucher avec
de vouloir,
le prof.
Oui. Non, si mais toute cette errance là, hein, dans cette banlieue des Yvelines est assez touchante, mais le film vaut surtout parce que c'est un reportage, un documentaire sur Emmanuelle Béart qui se révèle prodigieuse tout d'un coup. Moi, j'ai jamais été emballé par cette actrice, mais là, elle pourrait jouer chez Cazavetes et tenir la dragée haute à Jenna Rolands. Elle ose tout, elle se laisse filmer même de façon ingrate, en gros plan, et c'est vraiment un portrait de femme, un portrait d'actrice, et je sais pas comment ça s'est produit, parce que tout le reste est quand même un petit peu appliqué, le jeune copain homo, les sorties en boîte, les rencontres sur Internet, tout ça est bateau.
Justement, je trouve que la rencontre avec cet homme...
Oui, ça aurait été un sujet
Non, mais donne un moment où elle est vraiment désarmante, quoi.
Oui, désarmante, et l'intelligence aussi, c'est que le mari mort, on ne le verra jamais, il n'y aura aucun flashback, heureusement.
Il y a beaucoup de zones d'ombre et de mystère,
oui, c'est ça,
sur son personnage,
d'ailleurs.
En fait.
Mais le film patine un petit peu et devient vaguement complaisant et tourne en rond. Mais pour Emmanuelle Béart, là, c'est vraiment... Cette Margot, c'est un grand cru pour elle.
Xavier,
presque unanimité à cette tribune. On est tous d'accord sur les 20 dernières minutes et cette péripétie dont on aurait pu tout à fait...
Oui, je dirais même la demi-heure.
Mais pour un premier film, je sens le réalisateur, sens ce qu'il a envie de faire. On partage ou on ne partage pas, bien évidemment. Mais il tourne Emmanuelle Béart comme on ne l'avait pas si souvent tourné en plan serré. Alors c'est pas simplement le fait que le visage est un peu vieilli, c'est que subitement ça entrave le jeu d'Emmanuelle Béart, qu'elle joue juste avec le visage, avec l'expression, comme l'a très bien dit Charlotte, avec le silence, elle qui était habituée quand même...
Avec son corps aussi quand même.
Avec son corps, oui, mais elle est habituée à avoir un peu plus d'espace pour jouer, et là subitement elle intériorise le jeu. Tu as dit encombré dans ton résumé, c'est exactement ça, je l'avais noté sur mes petites notes, c'est-à-dire que ce sont des personnages, Vincent de Dienne mais surtout elle, qui sont encombrés les premiers plans. Elle arrive avec des cahiers, alors que tout on a un ordinateur pour travailler à la fac. Il y a toujours quelque chose qui encombre cette femme et qui l'empêche d'avancer. Et j'aime bien cette idée de personnages comme ça, qui s'encombrent d'eux-mêmes, en fait. Comme tu l'as très bien dit, Charlotte, qui sont leurs propres ennemis pour avancer. Et je trouve que la mise en scène, vraiment, va avec cela. Elle se pose les bonnes questions de cadre, de montage, de sensualité, de temporalité. Alors, tout n'est pas parfait, mais au moins par rapport au premier film dont on a déjà parlé aujourd'hui, il y a la question de la mise en scène qui est posée, et le metteur en scène vraiment essaye de trouver et de fournir une réponse que je trouve extrêmement pertinente et belle.
L'étreinte de Ludovic Bergerie que Camille n'a pas vue. Encore un premier film vers la bataille d'Aurélien Verne-Lermuzio avec Malik Zidi, Lénard Gomez, Thomas Chabrol. On est en 1861, la guerre fait rage au Mexique où l'armée française de Napoléon III mène une expédition pour mettre en place un régime évidemment favorable à ses intérêts et même y installer un empire, guerre coloniale donc, qu'un photographe français, Louis, joué par Malik Zidi, a l'autorisation de suivre pour y prendre des clichés sur place, où il est aidé par un paysan mexicain qui est joué par Lénard Gomez. Tout évidemment se complique, il est incapable de trouver les combats et de prendre le moindre cliché, et son passé le rattrape. La photo du film... Film qui ne manque pas de moyens, hein, pour un premier, c'est même assez impressionnant.
Et je suis pas
j'en jurerais pas. Hein. J'en jurerais pas.
Alors, on a l'impression qu'il y a beaucoup de moyens. Et d'ailleurs,
Avis, c'est son talent de donner l'impression d'un gros budget.
Une photo assez belle. Dans le dossier de presse, le réalisateur se réclame de aguerrir la colère de Dieu, de Werner Herzog, mais aussi de l'écrivain Maurice Maeterlinck. Film presque court par rapport à d'autres, 1h30. Eric.
Ah bah ça, c'est du costaud, hein, comme on dit. C'est un premier film, mais alors le type se prend déjà pour un génie. À chaque séquence, on voit la lumière qui clignote, qui dit « Attention, vous allez voir un tableau ». D'ailleurs, le gars est plasticien.
Et alors, je comprends pas bien la relation de cause à effet.
Eh ben si, parce qu'il s'imagine faire un tableau avec chaque image. Et ça se sent, il y a l'effort permanent qu'on devine derrière la caméra. Il est aussi laborieux que son photographe, qui a des appareils interminables à installer, donc ce qui fait que ça ne donne jamais rien. Il essaie de remplir absolument l'écran, mais ça ne produit que du vide. Mais c'est un vide qui n'est pas dénué de prétention, là. Le personnage principal, on voit des lettres et on lit dedans, tout se ressemble et pourtant rien n'est identique. Et bien dans le film, c'est le contraire. C'est tout le temps la même chose. Alors il est gonflé de se référer à Aguirre, parce que c'est tellement atone comme film. C'est Werner Herzog, lui. C'est n'importe quoi. Et c'est prétentieux. C'est interminable. C'est une copie de Cagneux appliquée, qui a vu beaucoup de films, qui se prend déjà pour...
Mais en même temps, l'image est assez belle, je trouve.
Oui, mais il ne s'y passe rien. C'est vraiment d'un ennui terrible.
Et il ne faut pas y aller pour comprendre ce qu'a été la tentative de colonisation
la guerre du Mexique, etc. Mexique, et puis surtout, il y a quand même un problème, c'est que Malik Zidi est un très bon second rôle, mais ce n'est pas Klaus Kinski. Il ne peut pas porter à lui seul un film sur ses épaules.
Je ne suis pas d'accord.
Camille.
De tous les films dont on parle, c'est le plus premier film, à mon avis, c'est-à-dire avec toutes les maladresses. C'est pas du tout un film qui se présente mastoc et tout. Effectivement, il est très ambitieux, on peut dire prétentieux, mais c'est une ambition qui tend à faire l'équilibre avec, je crois, un manque de moyens, au contraire. J'ai l'impression que c'est un film qui a été fait un petit peu à la force du poignet.
Parce qu'on a l'impression vraiment qu'il a...
Après, on sent qu'entre justement les intentions, et c'est vrai qu'il faudrait peut-être lui dire que c'est pas la peine de repeindre son film à coups de Werner Herzog Tarkovsky, oui. Et pourquoi pas Deadman, et pourquoi pas, parce qu'il y a Stuart Staples qui fait la musique. Alors c'est effectivement assez chic, le film est soigné, presque soigneux, et je pense que le film n'est pas ce qu'il aurait rêvé, que le cinéaste aurait rêvé qu'il fût. Cela étant, par rapport vraiment à l'inanité de ce qu'on nous propose ces temps-ci, je trouve qu'il faut plutôt soutenir ça, qu'il y a quand même une passation qui est un petit peu en dernier recours dans les dernières 20 minutes, la passation de l'aventure et de l'appareil photo au Mexicain, qui est finalement le personnage le plus intéressant du film, qui devient petit à petit quelque chose du récit qui prend et qui va vers ailleurs. Mais c'est vrai que c'est plutôt vers la lumière que vers la bataille. C'est un peu le côté comment on prend une photographie alors qu'on est au début du 19e siècle et que s'il n'y a pas de lumière et pas de temps de pause. Enfin, il y a comme ça toute une réflexion. Il y a vraiment deux, trois plans très beaux, dont le plan de la fosse, du faux champ de bataille avec les morts qui se relèvent. Enfin, c'est un petit peu ennuyeux, mais c'est un premier film et on peut se dire que s'il apprend de ses maladresses et en gardant un petit peu la boussole, il y arrivera.
Xavier, très rapidement, il a déjà, moi je pense, tout ce qu'il faut pour devenir un metteur en scène extrêmement intéressant. C'est un premier film, mais encore une fois, la question de la mise en scène est vraiment posée dans tout ce qu'elle comporte, c'est-à-dire le cadre, la picturalité, mais le hors-champ aussi. C'est vers la bataille, c'est une bataille qui nous trouvera.
C'est pire que Zeller de ce côté-là. On sent que le
type... Je préfère amplement ça à Zeller, excuse-moi, parce que d'abord, il y a un propos, c'est une image manquante, c'est une image qu'il ne trouvera jamais, derrière laquelle il court. On est presque plus du côté de chez Buzzati. Il faut arrêter que les metteurs en scène, effectivement, et que les distributeurs mettent...
Sur ligne,
j'ai été inspiré par, parce que généralement, c'est quand même un piège béant dans lequel tombent les jeunes metteurs en scène. Mais honnêtement, quand on voit le film sans cela, je trouve qu'il a une force de montage, il a une force de cadre, de décadrage. Je ne me suis jamais ennuyé, je trouve Malik Zidi absolument prodigieux et honnêtement c'est un film qui m'enthousiasme de promesses de metteur en scène.
Charlotte ? Oui, moi je rejoins Xavier, je trouve ça extrêmement plus que prometteur parce que c'est déjà pour un premier film je trouve singulier, ambitieux dans le bon sens du terme, ça nous change quand même des crises de coupe dans un trois pièces cuisine. Alors c'est sûr qu'il faut accepter l'aridité et le rythme du récit qui finalement correspond un peu au temps de pause des photos de l'époque et puis d'une traversée de la montagne à pied. Hein, voilà, ça ne se fait pas rapidement, mais quand on accepte ça, il y a quand même la beauté du cadre et des images. Tu disais, Jérôme, tu soulignais le chef opérateur, c'est celui de Bruno Dumont, David Chambi, donc c'est quand même pas rien. La musique, Stuart Staples, alors voilà, moi je suis fan absolu des Tindersticks, donc je ne peux pas dire du mal d'un film dont Stuart Staples a fait la musique. Elle est magnifique. Et c'est l'histoire d'une impossibilité, d'un échec, finalement, dans le but que ce photographe Louis a au Mexique pour révéler finalement une amitié assez improbable. Non, c'est un film assez beau.
C'est Vers la bataille, c'est Aurélien Verne Lermuzio, et on termine avec ce film qui cartonne évidemment en salle. Oui, il marche très bien. Envole-moi, si, les chiffres sont très bons. De Christophe Baratier, le réalisateur des choristes, avec Gérard Lanvin, Victor Belmondo et le tout jeune Johan Elundu, sur un scénario signé Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, les auteurs du prénom. Le film s'ouvre par le vol plané d'un cabriolet sport, le même que celui de Xavier Le Harpeur, dans la piscine d'une villa luxueuse. La voiture, elle est conduite par Thomas, 29 ans, pilier de discothèque comme Xavier. C'est Victor Belmondo, petit-fils de Jean-Paul. La piscine, c'est celle de son père chirurgien, c'est Gérard Lanvin, lequel, en représailles, ordonne à son fiston friqué et shooté de s'occuper dorénavant d'un de ses petits malades, Marcus, 12 ans, qui est noir, pauvre et handicapé. Ce film qui frôle est-ce qu'on dit frôle, la parodie d'Intouchables, est évidemment inspiré, c'est marqué en gros dès le début, d'une histoire vraie. Bon, je doute un peu que vous vous soyez envolé, Xavier.
Oui, c'est le remake inversé de Intouchables, puisque c'est un gosse de riche blanc qui pousse un petit garçon de couleur handicapé. C'est abominable. C'est-à-dire que Baratti, qui habituellement a droit des budgets faramineux pour reconstituer les années 36, les choristes, avec plein d'enfants qui chantent avec des voix de crécelle. Là, subitement, il a deux personnages, donc ça l'emmerde, clairement, hein, de toute façon. Donc il fait le strict minimum. Ses mises en scène, mais alors vraiment en pilote automatique, ça ne l'intéresse pas. Et sa vision de la banlieue, au secours, quoi. C'est vraiment, mais pétri de clichés, ça ne l'intéresse pas. Le pauvre Baratti, il y est allé, parce que pour l'instant, effectivement, sa carrière est en berne, il est allé chercher le chèque, il a à peine fait le film, le gamin est très bien.
Encore une fois, le scénario, c'est de la porte et de la patelière, hein. C'est pas
oui,
le, c'est...
mais enfin, oui, le scénario, c'est le film et le
déjà,
remake.
Déjà, le scénario est, ah, il est mort. Scénario,
oui. Hyper mastoc. Il y a effectivement ce petit gamin dont j'ai oublié le nom, qui est très
bien. Johan Elundu.
Heureusement qu'il est là, parce que dans ce truc de carton-pâte, il apporte un peu de vie, mais pour le reste, c'est honteusement mauvais.
Éric, tu as aimé ?
Je ne l'ai pas vu.
Camille ?
Je l'ai vu et je ne te remercie pas. C'était le premier film que je retournais voir dans une salle en public. C'est horrible comme retour dans une salle. Finalement, le tout début là, que tu as raconté, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein, la boîte de nuit, la voiture dans la piscine. Tu dis tiens. Et puis alors après, c'est fini. Après, il n'y a plus rien. C'est un film que tu oublies au fur et à mesure qu'on le voit. C'est consternant. C'est-à-dire que j'ai rien à dire de ce film. C'est oui, c'est tout ce que dit Xavier. On a l'impression qu'on touche à, même le môme, je le trouve pas bien. Je trouve rien de bien. Gérard Lanvin, il est like Ashton. Il regarde son fils avec des airs pathétiques et.
Je suis pas sûr que je le prendrais comme chirurgien, d'ailleurs.
Et non, mais il n'y a rien de rien. C'est quand même incroyable à quel point on peut mettre du fric. Mais faut filer du fric à des gens qui ont envie de faire des vrais films. Enfin, je sais
et
pas.
Avec un affichage.
C'est pas possible. Intouchables à côté, immense. C'était vraiment très bien à côté. Hein, moi, je crache pas. Non, mais parce qu'ils se sont dit, on va refaire. Sauf que Xavier dit, c'est la même chose inversée, mais dans Intouchables, au moins, c'était le riche qui était handicapé. Là, le pauvre môme, il a tout contre lui. Il est handicapé, arabe oui. Et noir, et pauvre, et banlieusard. Enfin bon, oui. Et l'autre, là, le petit Belmondo, c'est le fils de...
Il a une maman charmante. Avec ce Joker focus, c'est une histoire vraie.
Oui, derrière en plus, oui, d'un coup,
se réfugient les auteurs, vous ne pouvez rien nous reprocher.
Et Jean-Jacques Goldman, en fait, il n'y a rien, il n'y a rien, mais rien du tout.
Charlotte.
Moi, je sauve quand même ce jeune Johan Elundu. Donc, Christophe Baratti, au moins, est un bon directeur d'acteurs d'enfants, enfin, de jeunes adolescents.
Il est un bon directeur ou directrice
de casting. Je trouve qu'il cavoutine,
voilà.
En fait.
Il est très bon. Évidemment, on ne pense qu'à Intouchables, c'est-à-dire que le produit est tellement calibré. Quand je dis produit, c'est un peu à dessein, parce que on parlait du placement de produit, il y a le PSG, mais alors les hôtels aussi, enfin on va pas les citer.
À la fin, c'est la boule, ou je sais pas, ou c'est sur une plage.
Quand même, le placement de produit extrêmement visible et lourdingue dans ce film. La musique est un plagiat éhonté de Ludovico Einaudi, qui avait fait la musique d'Intouchables. On est complètement dans cette même lignée. Et surtout, ce qui est assez désolant, c'est que tout est d'une prévisibilité oui, sans borne, quoi.
Dès
le début,
on voit
où ça va. Et ça y va, pépère, étape après étape. Alors effectivement, réaliser les rêves de cet enfant malade. Alors en même temps, il rêve de chanter du Jean-Jacques Goldman dans un karaoké. Donc c'est à portée de main, quoi. C'est pas non plus un rêve irréalisable. Donc voilà,
tout
se déroule.
Toi aussi, hein, je te rappelle.
Oui, absolument.
Hein, moi, je vais chanter avec
tout
Mylène
est
sur scène,
programmatique. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas. J'ai rien d'autre à ajouter.
C'est que si la musique avait été de Mylène Farmer, je pense que tu aurais aimé le film, Xavier.
C'est possible.
Ah, mais le film aurait été bon.
C'est possible. Et la fin est hyper moralisatrice.
Oh,
la rentre dans le rôle.
J'ai rien d'autre à dire, quoi. Et Victor Belmondo, je trouve, cela dit, s'en sort pas si mal que ça. Dans le rôle qui lui est défini, bon, ça va, il fait le job.
Pourquoi t'y es pas allé, Eric?
Parce que j'avais fait un fond de l'œil et que je ne voyais plus rien.
Bon, ça t'aurait pas empêché de le voir. Envole-moi, c'est donc Christophe Baratti. Voilà, c'était la première émission consacrée à des films en salle. On en sort ragaillardi.
Oui, ben.
Donc peut-être qu'il est temps maintenant de proposer des conseils de films que vous avez aimés, que vous avez envie de donner à voir à nos auditeurs. On va commencer avec Charlotte.
Pour rester dans la lignée du thème abordé avec Promising Young Woman, qu'on n'a pas beaucoup aimé, il y a quand même Slalom, je sais que vous en aviez parlé il y a plusieurs mois, mais je vais remettre une petite couche là, puisqu'il est sorti effectivement il y a quelques jours.
Je signale, on avait parlé d'ADN, beaucoup de films, au moment où on est entré en confinement, on avait encore pu évoquer ces derniers dernier film, dont effectivement Slalom.
Qui est un premier film, là encore, de Charlène Favier, là où l'histoire d'une jeune championne de ski qui va se retrouver sous l'emprise de son entraîneur. Et là où je trouve le film très intéressant, c'est qu'il est peut-être assez classique et traditionnel dans sa forme, mais alors sur le fond, il est autrement plus intéressant que Promising Young Woman. Il n'est pas du tout question d'un bourreau et d'une victime. C'est beaucoup plus complexe que ça, et je trouve que la réalisatrice a le courage de s'aventurer dans la zone grise du consentement, du trouble de l'âge de l'adolescence. C'est pas si simple que ça, et le film est merveilleusement porté par Noé Habitat, qui a un regard vraiment sombre, extrêmement fort dans les silences, et Jérémy Régnier avec un rôle assez difficile quand même à porter. Je les trouve tous les deux formidables. Et puis comme on n'a pas pu aller au ski cette année,
qui sort respire, à un moment voilà. Où le monde du sport montre parfois ses pires coulisses. Le conseil d'Éric.
Ben, ce sera un livre, c'est les mémoires de David Niven chez Séguier.
Formidable.
Qui était paru dans les années 70 et qui était absolument introuvable depuis.
Énorme, hein,
énorme. Énorme, 1000 pages. Mais ça vaut vraiment le coup parce qu'on découvre un type, quand il parle de la guerre, c'est comme les mémoires de Churchill. Quand il parle du cinéma, de sa vie privée, c'est du Woodhouse. D'ailleurs, il avait joué dans un Jeeves à Hollywood. Mais c'est l'anglais tel qu'on l'aime, avec l'élégance, l'humour, l'autodérision, le style, c'est épatant. Et on a un peu oublié David Niven acteur, mais là, on le découvre écrivain, et il est peut-être encore meilleur, même s'il avait obtenu l'Oscar pour son rôle de Phileas Fogg dans Le Tour du Monde en 80 jours. Et il s'était cassé la figure en montant sur scène, parce qu'il avait dit « Je me suis dépêché parce que j'ai eu peur qu'il change d'avis entre le moment où je me suis levé et celui où je serais arrivé sur scène. »
Et c'est un des meilleurs portraits, je trouve, d'Hollywood.
Ouais.
À l'époque où Amazon n'avait pas encore racheté la Metro-Goldwyn-Mayer.
Et Rolf Flynn, John Barrymore, c'est étonnant.
Et je vais te faire une confidence, je l'ai inscrit précisément au programme d'un des masques littéraires de cet été. Le conseil de Camille.
Alors, plutôt que ses premiers films un petit peu surdosés, on va prendre un petit documentaire qui est sorti enfin en DVD, ça s'appelle La Liberté, de Guillaume Massard, qui est sorti là il y a quelques jours aux éditions Blackout ESC Distribution. Guillaume Massard est parti sur l'île de la Corse, dans une prison à ciel ouvert qui s'appelle Casabianda, qui tente une expérimentation. Il n'y a pas de barreaux, il y a juste l'île dont on ne peut pas s'échapper. Et les prisonniers de cette étrange prison ont cette particularité, et c'est là qu'on revient au sujet qui nous occupe, par des pédophiles et des hommes incestueux, etc. Donc il va à la rencontre de ces hommes infréquentable, et au fur et à mesure, quelque chose se passe. Alors, c'est vraiment le sujet qui a tendance plutôt à faire fuir, a priori, et en fait, il y a quelque chose de très beau qui prend sur l'espèce de nature de la Corse, comme ça, et de ces hommes qui sont enfermés dehors, vraiment en une prison à ciel ouvert, et qui peu à peu se mettent à parler de ce dont personne ne parle, à savoir de ce qu'ils ont fait ou pas fait, et d'eux-mêmes. Ça devient extrêmement poignant, je peux pas dire vers quoi, il y a vraiment une sorte de surprise, de quelque chose qui se passe, à quoi forcément le documentaire ne pouvait pas s'attendre, et je conseille à tout le monde de découvrir
chez ESC, tu rappelles le titre ?
La liberté.
La liberté. Et enfin, le conseil de Xavier.
Eh bien, moi, ce sera un conseil japonais en deux films absolument formidables. Ongaku, notre rock, un film de Kenji Iwazawa. C'est un dessin animé minimaliste. On n'est pas habitué à cela avec l'animation japonaise. Et qui est extrêmement drôle sur la formation d'un groupe de rock au lycée. C'est ironique, c'est amusant, c'est stylisé, mais effectivement, avec une épure de style que j'aime beaucoup. Et puis, mon gros coup de cœur, c'est Hospitalité. Le film de Koji Fukada, cinéaste japonais qu'on commence vraiment à voir s'installer dans
beaucoup de sorties cet été.
Il y en aura beaucoup, voilà. Il y en avait deux l'année dernière à Cannes, qui pour l'instant sont ajournées, mais on les verra certainement. Et c'est l'histoire d'une famille d'imprimeurs qui accueille en son sein un personnage qui va les remplacer. Simplement, purement. C'est un film très drôle, très méchant avec la société nippone, extrêmement fin, extrêmement cruel. Et la mise en scène, comme le scénario, sont des petits trésors, comme ça, d'inventivité et d'innovation. J'adore ça. Hospitalité.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Camille Nevers, Charlotte Lipinska, Éric Nohoff, Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir au Théâtre de l'Alliance Française à la Technique, il y avait, je les remercie, Jason Taous ainsi que Charles Bouticourt pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Dans une semaine, on parlera de livres et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.